Chapitre 16. Au début de ce chapitre, nous retrouvons Paul à Derbe et à Lystre, les lieux où il avait été lapidé. Et c'est dans ces villes qu'il trouve maintenant Timothée, celui qui sera un si grand réconfort pour lui dans les dernières années de sa vie. Quelle belle illustration de la manière dont Dieu, dans son gouvernement, agit en faveur des fidèles. Ne sommes-nous pas enclins à penser que ce gouvernement s'exerce seulement contre les impies? Une des plus grandes consolations de Paul a sa source là où il a connu les souffrances. Or, Timothée, étant d'un père grec, n'avait pas été circoncis. Il n'aurait donc pas été reçu dans les cercles juifs. Paul, le sachant, le circoncit. Son attitude ici semble être en contradiction totale avec celle qu'il adopte à l'égard de Tite, voir Galates 2, versets 3 à 5. Mais, dans le cas de Tite, toute la vérité de l'Évangile était mise en jeu, tandis que dans celui de Timothée, aucune question ne se posait. Pour Timothée, il s'agissait simplement d'éviter ce qui aurait été un obstacle dans son service pour le Seigneur. Et Paul ne voulait pas maintenir une apparence de constance qui n'aurait été que superficielle. Dieu lui donnait un compagnon dans l'œuvre, et il convenait d'ôter tout ce qui entraverait ses travaux. Le séjour quelque peu prolongé de Paul en Asie mineure au cours de son deuxième voyage est résumé dans cinq courts versets, versets 4 à 8. L'apôtre et Timothée se livrent à une œuvre pastorale. Ils traversent des régions où des assemblées avaient déjà été établies précédemment. Ils leur enseignent les ordonnances qui ont été établies lors de la conférence à Jérusalem, et les assemblées sont affermies et croissent en nombre. Puis ils visitent de nouvelles régions, la Phrygie, la Galatie et la Mysie, et là, ils font évidemment le travail d'évangéliste. C'est à ce moment-là que l'apôtre a connu cet accueil si chaleureux des Galates dont il parle dans l'épître qu'il leur adresse, chapitre 4, versets 13 à 15. C'est aussi une époque au cours de laquelle Dieu exerce un contrôle très serré sur ses déplacements. Arrivé en Mysie, il se trouve entre la Bithynie, au nord ou au nord-est, et l'Asie du Sud. Si le chemin avait été ouvert, il aurait été dans les deux directions. Pour ce qui concerne la Bithynie, l'Esprit le lui défendit expressément. Pour l'Asie, l'Esprit l'en empêcha. Nous avons là, semble-t-il, une indication moins directe, dictée davantage par les circonstances. Troas est située sur la côte maritime de la Mysie. Paul reçoit là, par la vision d'un homme macédonien, une indication positive. Ainsi, en cinq versets, nous voyons Paul être guidé par Dieu de trois manières différentes, deux fois de façon négative et une fois de façon positive. Cela devrait éclairer ceux d'entre nous qui, ayant le grand désir de recevoir une direction divine, s'attendent à la recevoir de la seule manière qui leur convient. Paul et ses compagnons, reconnaissant dans la vision une directive de Dieu, obéissent immédiatement. Le verset 11 montre que Dieu permit que les vents leur soient favorables et que la traversée soit très rapide. Nous voyons en effet au chapitre 20, verset 6, que, lorsque des années plus tard ils firent le trajet en sens inverse, il leur fallut cinq jours. À Troas, Luc, l'auteur du livre, semble bien avoir rejoint Paul. Car, tandis que dans les versets 4, 6, 7 et 8, nous avons partout « il » au pluriel, dès le verset 10, nous trouvons « nous », et ce « nous » est employé dans tout le récit de ce qui s'est passé à Philippe. Philippe avait le statut de colonie romaine. Aussi, l'élément romain y était-il très fort, et en conséquence, peut-être, l'élément juif faible. Il n'y avait pas de synagogue, mais seulement un lieu en dehors de la ville, au bord du fleuve, où l'on priait le vrai Dieu. L'apôtre et ses compagnons cherchent ce lieu. N'y trouvant que quelques femmes assemblées, ils s'asseyent et leur parlent. Ce début ne semblait pas très prometteur, mais Paul était un homme qui reconnaissait et utilisait les petites choses. Il ne se lance pas dans une grande prédication, mais il s'assied simplement et leur parle d'une manière informelle. Cet humble commencement à un aboutissement remarquable. Une assemblée est établie à Philippe. Plus que d'autres, elle était remplie de grâce et elle fut un réconfort pour l'apôtre. L'œuvre commence dans le cœur de Lydie, un cœur que Dieu ouvre. L'expression « qui servait Dieu » indique qu'elle cherchait et était devenue une prosélyte. Maintenant, dans l'évangile que Paul annonçait, elle trouve la substance de ce qu'elle cherchait. Le travail s'opère sans bruit, mais est très réel, puisqu'elle est baptisée ainsi que sa maison. Et tout de suite, elle s'identifie aux serviteurs du Seigneur en leur ouvrant sa maison. L'incident suivant est la rencontre avec la servante qui avait ouvert son cœur à quelques ténébreux agents du diable. Elle donne l'apparence d'approuver Paul et ses compagnons. Certains auraient pu en être flattés et dire « C'est vrai, nous sommes des esclaves de Dieu. Si cela lui fait plaisir de nous faire de la réclame, laissons-la. » Mais Paul n'est pas aveugle à ce point. Il sait que la recommandation du diable n'est pas un gain, mais une perte. Aussi rejette-t-il son témoignage en commandant au mauvais esprit de sortir d'elle. L'esprit est contraint d'obéir et les maîtres de la servante comprennent que l'espérance de leur gain s'en est allée. Hors d'eux-mêmes, ils traînent Paul et Silas devant les magistrats et formulent leur accusation de manière à dresser les Romains contre eux. La foule se soulève et pousse les magistrats à des actes incontrôlés et contraires à la loi romaine. Il n'y a pas de véritable jugement. Ils sont fouettés et jeté en prison. Dans ces circonstances, même le geôlier use d'une sévérité extrême, et la nuit tombe sur eux dans cette triste condition. Ont-ils alors été assaillis par le découragement et les doutes, et se sont-ils demandé si la vision de l'homme macédonien n'avait pas été un peu trop forcée? Peut-être, car ils étaient des hommes soumis aux mêmes faiblesses que nous. Quoi qu'il en ait été, leur foi ne tarde pas à triompher. Et, à l'heure la plus sombre, non seulement ils prient, mais ils chantent les louanges de Dieu. Soudain, Dieu intervient, non pas uniquement par le tremblement de terre. Normalement, les tremblements de terre ont pour conséquence de coincer complètement les portes au lieu de les ouvrir. Et aucun d'entre eux, à moins de sortir tout à fait de l'ordinaire, n'a jamais libéré des prisonniers de leurs liens. Lorsque la voix de Paul parvient à ses oreilles, le geôlier, connaissant la sévérité des lois romaines à l'égard de la garde des prisonniers, était sur le point de se suicider. Le fait qu'il ait demandé de la lumière, verset 29, prouve qu'ils étaient tous dans l'obscurité. Comment Paul savait-il ce que le geôlier allait faire? Le cri soudain de Paul était évidemment inspiré par l'Esprit de Dieu, et pour le gardien, il est comme la voix de Dieu. L'homme macédonien se manifeste enfin. Il est tout tremblant. Il tombe sur sa face devant ses prisonniers. Et bientôt, il pose la grande question qui depuis lors a été celle de millions de pécheurs convaincus. Il reçoit la réponse immuable qui a apporté la lumière et le salut à d'innombrables âmes. Nous citons souvent Actes 16, verset 31, mais trop fréquemment, nous en omettons les trois derniers mots. Dieu se plaît à identifier l'homme et sa maison et à inclure celle-ci dans son offre de bénédiction. Pourquoi notre foi ne s'empare-t-elle pas plus souvent de ce fait? Nous avons déjà trouvé dans notre chapitre une femme convertie mentionnée avec sa maison. Maintenant, il est question d'un homme converti avec sa maison. Quel encouragement pour tout chef de famille que la grâce de Dieu atteint. Il n'y a pas d'acception de personne pour Dieu. Et ce qu'il est pour un, il l'est pour tous. Le geôlier croit et, sans aucun délai, manifeste sa foi par ses œuvres. Puis, bien qu'il soit encore nuit, lui et tous les siens sont baptisés sur le champ. Cela montre très clairement que le baptême n'est pas une ordonnance censée être une confession de foi et qui doit se faire en public. Si tel avait été le cas, une occasion importante aurait été perdue ici. Combien facilement cela aurait pu avoir lieu le lendemain, lorsque l'opinion publique aurait été un peu plus favorable à Paul? Après le tremblement de terre, une grande confusion devait régner dans toute la ville. Mais pour le centurion et sa maison, les liens avec leur vie précédente avaient été rompus immédiatement, car le baptême signifie une dissociation par la mort de Christ. Lorsque, le jour suivant, les magistrats reviennent en arrière, Paul saisit l'occasion pour leur montrer qu'eux-mêmes ont été des transgresseurs, vu que lui et Silas sont des citoyens romains. Il ne va pas plus loin ni ne réclame de réparation. Ils sont pourtant relâchés et ils ont le temps de voir les frères et de les exhorter avant de partir. L'Épître aux Philippiens nous permet de voir le développement de l'œuvre après leur départ.